It's really lovely to be with you. Thank you for inviting me again.
C'est vraiment agréable, c'est vraiment bien d'être avec vous. Merci de m'avoir encore invité.
And before I go any further, I must send greetings and love from lots of people in England.
Alors, je dois vous faire passer des salutations et l'amour fraternel de beaucoup de personnes en Angleterre.
First of all, from my wife Anne, who came with me on the first occasion that I visited Hasbrook.
Tout d'abord de mon épouse Anne, qui est venue la première fois que j'ai visité Hasbrook.
And on that occasion too, we had our youngest lad with us, who's now just had his 17th birthday. And as a result of that, in England, he's now able to start driving, so he's had his first two driving lessons.
Et aussi à cette occasion, il y avait notre plus jeune fils de 17 ans. Et comme il a 17 ans, maintenant, il peut commencer à conduire en Angleterre et il vient d'avoir ses deux premières leçons de conduite.
He's actually had surgery on his lower legs this week, so Anne is a full-time nurse at the moment looking after him because he can't walk for a couple of weeks.
Et en fait, il a eu aussi une opération sur ses jambes cette semaine. Et donc, Anne, son épouse, doit aussi s'occuper de lui, veiller sur lui, prendre soin.
But quite a number of people at the Longcroft, the church where I worship, send their love to you.
Il y a beaucoup de personnes de l'église de Longcroft, donc qui vous envoient leurs salutations.
In particular, you would know, of course, Norman and Jenny Meaton. Norman's in Italy at the moment, but Jenny sent their love.
Donc vous avez les salutations, l'amour de Jenny et Norman. Norman est en Italie actuellement. Et Jenny vous envoie ses salutations.
We had a meeting at the Longcroft last evening when Jenny was there and she particularly wanted me to send her greetings.
On a eu une rencontre hier à Longcroft et Jenny a vraiment insisté pour envoyer ses salutations.
And also there would be many people there who feel a real connection with the church here that you would perhaps never have met.
Et il y a aussi des personnes que vous n'avez probablement jamais rencontrées mais qui ont vraiment une connexion, un lien avec l'Église et qui envoient leurs salutations.
I know over the years a number of people have passed through, but many people haven't, but there is a real link and people do pray for you and remember you.
Il y a un véritable lien et les personnes vraiment prient pour vous se souviennent de vous.
So I count it a real privilege to be with you again tonight and I've looked forward to this weekend very much.
Et c'est un véritable privilège pour moi. Et j'attendais d'être parmi vous et de pouvoir partager ce week-end avec vous.
And what I'd like to do is as I've thought about this weekend and read and prayed, I've come to think that I would like to speak to you about the person of Abraham.
Et en me préparant pour ce week-end, bien je suis arrivé à la conviction qu'il fallait que je parle avec vous d'Abraham.
So if you have your Bible, if you could turn into the 12th chapter of the book of Genesis.
Alors on va ouvrir nos Bibles dans le chapitre 12 du livre de la Genèse.
And we'll begin at the beginning of his story tonight.
Et on va commencer avec le début de l'histoire d'Abraham.
Abraham is the most referred to person in the whole of the Bible, apart from, of course, the Lord Jesus Christ.
Et à part le Seigneur Jésus-Christ, eh bien Abraham est la personne qui a le plus de références à son sujet dans la Bible.
He's not just historically important as being, if you like, the founder member of the Jewish race.
Alors c'est pas juste qu'il a une importance seulement historique en tant que tête de la famille juive.
And it's not just the historical things that I'm interested in this weekend.
C'est pas juste la dimension historique qui va nous intéresser.
But it's actually how the Bible interprets the events that Abraham passed through that is important for us to get hold of over these days together.
Mais il nous faut surtout saisir tous les événements qui ont jalonné la vie d'Abraham, et c'est ça qui est vraiment important qu'on saisisse.
We can read the narrative in Genesis from chapters 12 through to 25.
On peut lire about his life. On peut lire du chapitre 12 au chapitre 25 dans Genèse sur sa vie.
But when you look into the New Testament, you'll see him referred to on many occasions there as well.
Mais si vous regardez dans le Nouveau Testament, bien vous allez voir aussi beaucoup de références à propos d'Abraham.
Notably, a number of chapters in Romans, a number of chapters in Galatians.
En particulier dans Romains, plusieurs chapitres, dans Galates, plusieurs
significant
chapitres.
Significant verses in James and Hebrews.
des versets importants dans l'épître de Jacques, dans l'épître aux Hébreux.
And all of those New Testament passages pick up spiritual principles that we are to understand from his life.
Et dans tous ces passages, il y a des principes très importants qu'on a besoin de saisir.
So tonight I want us to begin by looking at Abraham's beginning.
Alors ce soir, j'aimerais qu'on commence par le commencement de la vie d'Abraham.
Let's just read a few verses. Let's just read from verses 1, 2, to 2 and 3 of chapter 12 of Genesis, if we can, Grégoire.
Donc, Genèse 12, verset
1 to 3.
Verset 1 à 3 dans Genèse 12.
How is it best to do it? Is it best if you just read it? Probably that's simplest, isn't it?
I think so,
yeah. If you could read those first three verses.
Okay. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »
Really quite a remarkable story, isn't it?
C'est vraiment une histoire remarquable.
When you think that in chapter 11 and verse 31 and also in verse 28, we see that Abraham was raised in Ur of the Chaldees.
C'est vraiment remarquable du fait que dans les chapitres précédents, dans les versets précédents, on apprend qu'Abraham a été a grandi dans la ville de Ur en Chaldée.
And Ur, of course, was an entirely pagan city.
Et Ur était vraiment une ville totalement païenne.
It was a society that was dominated by the worship of the sun and the moon and demonic powers.
C'était le culte de cette ville était dominé par le culte du soleil, de la lune et beaucoup de choses démoniaques dans cette ville.
It was a highly sophisticated society.
C'était une société très développée, très sophistiquée,
but it was entirely godless.
Mais entièrement impie.
And into that society, God spoke to one man.
Et au sein de cette société, Dieu a parlé à une personne.
We know him as Abraham, but really at this point, his name was Abram.
Et on sait que c'est Abraham, mais à ce moment-là, son nom était Abram.
And the Lord said to him, "Get out from this country, from your family, and from your father's house."
Et Dieu lui a dit, sors de ce pays, sors du sein de ta famille, sors de la maison de ton père.
Just keep your finger in the book of Genesis and let's look at a verse that comes in the book of Acts.
On garde un doigt dans Genèse 12, mais on va se référer maintenant dans le livre des Actes.
And it's Acts chapter 7.
Acte 7.
And I'm going to read verse 2 and 3.
Acte 7,
verses 2 and 3.
Acte 7, versets 2 et 3.
And just before Grégoire reads this to us, what you'll see here is some revelation that comes in the New Testament that doesn't occur in the Genesis account.
Et là, on a des données supplémentaires dans le Nouveau Testament sur la vie d'Abraham qu'on ne trouve pas dans Genèse. Il y a des choses plus importantes qui nous sont révélées.
So if you could read 2 and 3 for me, Grégoire, please.
Verses Stephen and answering. Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant.
No, that's fine, that's plenty, thank you. And the verse that I have in mind with the information I need is in verse 2.
On va se concentrer sur le verset 2.
Where it says, the God of glory appeared to Abraham.
Il nous est dit, le Dieu de gloire est apparu à Abraham.
What was it that enabled Abraham to hear God in the context of his society.
Qu'est-ce qui a permis à Abraham d'entendre Dieu dans le contexte de sa société?
It was the fact that the God of glory was revealed to him.
C'est le fait que le Dieu de gloire a été révélé, lui a été révélé.
Somehow, in spite of all the culture that he was in, he had a revelation, he had an unveiling of the Almighty God in all his glory.
En dépit de la société dans laquelle il vivait, il a eu une révélation, une découverte du Dieu de gloire.
The glory of the Creator God that outshone all the idolatrous heathen practices that he had been engaged in.
La révélation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu qui a vraiment brillé et qui a remis dans l'ombre toutes les idoles et toute l'idolâtrie de sa société.
The God of glory broke into his life.
Le Dieu de gloire s'est révélé dans sa vie.
And in some way that has to happen to each and every one of us, doesn't it?
Et d'une certaine manière, cela a besoin de nous arriver à chacun d'entre nous.
That all of us have to have a personal revelation of God to our inward spiritual eyes.
Et chacun d'entre nous, on a besoin d'avoir une révélation de Dieu dans notre vie intérieure, dans notre vision intérieure, nos yeux spirituels.
If this man Abraham is going to forsake everything, all his family, his history, his society, and go out just on the word of God.
Si cet homme va être capable de laisser derrière lui toute sa famille, toute son histoire, tout son passé et d'avancer,
he's going to have had some revelation of God for that to happen, isn't he?
Pour faire ça, il a vraiment besoin d'avoir une révélation de Dieu pour être capable de faire ça.
God said to him, "Get out of your country."
Dieu lui a dit, sors de ton pays.
From your family,
quitte ta famille.
From your father's house.
La maison de ton père.
For Abraham, there had to be a complete break from everything that he knew to follow the God who had revealed himself to him.
Fallait vraiment qu'il y ait une rupture complète afin qu'il puisse suivre le Dieu qui lui était apparu.
Quite a radical thing that God does.
C'est vraiment quelque chose de radical ce que Dieu fait.
And his call is something that comes to each and every one of us as we have this revelation of his glory.
This call.
The call of God. The call of God.
Oh, the call, okay.
The call of Sorry. God.
Can you repeat the sentence for us?
The call of God for us to leave and be separate from our past comes with the revelation of the God of glory.
Et l'appel de Dieu qui nous permet de rompre avec le passé, eh bien c'est quand vraiment on a cette vision, cette compréhension de la gloire de Dieu.
The call to our Christian living is a call to separation, isn't it? A separation to God.
L'appel de notre vie chrétienne est une séparation pour Dieu.
In fact, it's the word that is usually used in the New Testament for the word of sanctification.
C'est le même mot qui est employé dans le Nouveau Testament pour le mot sanctification.
The word sanctification means that we're set apart for God.
Le mot sanctification veut dire qu'on est mis à part pour Dieu.
We've been separated away from everything else to be God's.
On a été séparé de toute autre chose pour appartenir à Dieu.
And the related term that we have in the New Testament to that is the word saint.
Et le mot qui est lié à ça dans le Nouveau Testament, c'est le mot saint,
which is actually the commonest description of a Christian in the New Testament.
Qui est la description la plus commune du chrétien dans le Nouveau Testament.
So if we're going to be Christians in the biblical sense of that term tonight, we are people who are separated to God.
Alors si nous voulons être des chrétiens dans le sens biblique ce soir, nous devons être des personnes qui sont séparées pour Dieu.
Separated from all our history.
Séparés de notre histoire,
all our family,
notre famille,
all the other human relationships, however close and important they are,
de toutes les autres relations humaines, bien qu'elles puissent être importantes,
God calls us into relationship with himself primarily.
Dieu nous appelle à une relation avec lui en premier lieu,
into a relationship that supersedes every other human relationship that we have.
Une relation qui surpasse toute autre relation humaine que nous pouvons avoir.
And part of this man's greatness is that he obeyed.
Et vraiment la grandeur de cet homme, c'est qu'il a obéi à Dieu.
It says in the book of Hebrews that he obeyed and he went out not knowing where he was going to go.
Dans les Hébreux, il nous est dit qu'il a obéi et il est sorti sans savoir où il allait.
And that's why he is a father of faith.
Et c'est pour ça qu'il est le père de la foi.
That's why we're encouraged to walk in the steps of the faith of Abraham.
Et c'est pour ça que nous sommes encouragés à marcher dans les pas d'Abraham.
Because he heard God.
Il a entendu Dieu.
And he followed him.
Et il a suivi Dieu.
Having said that, I want to qualify that a little bit.
We're going to qualify.
I want to qualify what I've just said. Yeah, about having heard God, he obeyed him.
Okay. Après avoir dit tout ça, maintenant, je vais mettre quelques qualifications, apporter plus de détails, plus d'informations.
Because actually, God had told him to leave his father's house in Ur and to follow the Lord.
Dieu lui avait dit de quitter la famille de son père à Ur et de suivre le Seigneur.
But he didn't actually do that initially, did he? You remember the story? At the end of chapter 11.
Mais en fait, au départ, il n'a pas fait ça tout de suite.
What happened is he ended up taking his family with him.
Donc il a pris sa famille avec lui.
And it seems at one point almost as if his family were taking the lead in something that God had told him to do.
Et il semble qu'à un moment même sa famille a pris la première place par rapport à ce que Dieu avait prévu.
And what happened? They got to a place called Haran and then they stopped.
Ils ont été à un lieu qui est appelé Charan et ils se sont arrêtés.
So although Abraham had heard the call of God,
alors bien qu'Abraham avait entendu l'appel de Dieu,
and he'd encountered the glory of God,
et il avait rencontré la gloire de Dieu,
his obedience was actually only partial.
Malgré tout ça, son obéissance était partielle, pas entière.
And he had to wait in Haran.
Et il a dû attendre à Charan.
And he waited there until his father had died.
Et il a attendu là, il est resté là jusqu'à ce que son père meure.
You can see that at the end of chapter 11, verse 32, that Terah, his father, died in Haran.
Et on voit ça dans le chapitre 11 de Genèse, au verset
32, chapter 11.
Au verset 32 du chapitre 11 de Genèse. Donc son père, il nous a dit, les jours de Terah furent de 250 ans et Terah mourut à Charan. Donc ça nous démontre la chose.
Whether Abraham had another
250, pardon. Sorry, it's okay.
Okay. Yeah. So whether Abraham had another word from God to move on, or whether he just realized that he should have gone from the initial call, we don't know. But he then moved out of Haran and continued his journey.
Alors est-ce qu'à ce moment-là Dieu lui a donné une autre parole qu'il a fait repartir, ou est-ce qu'il s'est souvenu de ce que Dieu lui avait dit? En tous les cas, on sait que de là il est reparti.
He actually even then never really got clear of his family.
Mais même là, il s'est pas totalement détaché de sa famille.
You remember that he ended up taking his nephew with him, Lot.
Il a même pris son neveu avec lui, Lot.
I'm assuming that you know something of the story of Abraham. But Lot gave him a lot of trouble. If you can excuse, that's an English pun, I don't know whether that works in French or not.
Et je suppose que vous connaissez l'histoire d'Abraham un petit peu. Et si vous la connaissez, vous savez que Lot lui a posé beaucoup de problèmes.
Yeah, he had a lot of problems with Lot.
Yeah, il a eu beaucoup de problèmes avec Lot.
And he only moved out of Haran when his father Terah died.
Et donc il a juste quitté Charan quand son père est mort.
Now, I don't know whether you have an expression in France, but in England there's an affectionate expression about our dad. We call him the old man.
Alors dans la langue anglaise, il y a une expression qu'on emploie, une expression affectueuse pour notre père. On dit the old man.
Do you have that in France? Is that how you refer to
le vieux? Mais
Does it not quite
Maybe
work?
In English it's no, more affectionate than in French.
More affectionate.
Mais en anglais, c'est affectueux.
Yeah. But it is interesting that the old man had to die before Abraham really went on his journey with God.
Mais donc son père devait mourir. Enfin, c'est il faut relever que son père devait mourir avant qu'Abraham puisse aller de l'avant.
And the Bible talks about us having an old man, doesn't it?
Et d'un autre côté, la Bible nous dit qu'on a aussi un vieil homme.
And our old man is all who we are before we know God, before we know Christ.
Et donc, pour tracer un parallèle avec notre vie intérieure, on a aussi ce que la Bible appelle le vieil homme en nous, tout ce que nous étions avant de connaître le Seigneur.
It's quite a complicated idea, but it carries with it all the weight of our history as a humanity, the power of sin that operates in the human heart.
Et cette expression, donc le vieil homme, qui ne fait pas référence à notre père physique, mais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il parlait du vieil homme, tout ce que nous étions avant de nous convertir, tout le péché que nous avons encore avec nous.
And one of the great revelations of the Bible about the gospel is that the power of God has broken the power of the old man.
Et dans la Bible, quand il est parlé de la conversion, de se tourner vers Dieu, il dit que la puissance de Dieu a changé nos vies, a réduit à l'impuissance notre vieil homme, notre ancienne nature.
So when Jesus died on the cross, our old man was crucified with him, and the power of sin was broken in the human heart.
Et bien sûr, on ne parle pas de notre père physique ici, mais quand Christ est mort à la croix, eh bien notre ancienne nature, tous nos péchés, tout ce que nous étions, eh bien est mort avec lui et nous avons reçu sa vie.
And that's what makes it possible for a man to live free from the power of sin.
Et c'est pour ça qu'on peut vivre libre de la puissance du péché.
And that's what makes it possible for us to walk away from our fathers, that is our background, our history, our own personal family background.
Et c'est cette transformation qui nous permet d'être libérés, de nous éloigner, de nous enseigner notre ancienne vie, mais aussi ce qui vient de toute notre histoire familiale, etc. On est affranchi de toutes ces choses.
All the things that we have inherited by way of first birth, natural birth, those things have been broken by the cross and by the power of Jesus Christ.
Tout ce que nous avons hérité de notre première naissance, bien tout cela a été affranchi, nous en sommes affranchis par la puissance de Jésus-Christ.
So once Terah had died, once the old man had died, Abraham was free to fully obey the call of God.
Donc quand Terah est mort ici, bien Abraham a été libre, libéré pour pleinement obéir à l'appel de Dieu.
Let me ask you, are you free to follow the call of God tonight?
Laissez-moi vous demander, est-ce que vous êtes libre pour suivre l'appel de Dieu ce soir?
Has the God of glory revealed himself to you?
Est-ce que le Dieu de gloire s'est révélé à vous?
Do you know something of the call of God upon your life, that he's calling you to be separate to him?
Est-ce que vous connaissez quelque chose de l'appel de Dieu qui vous appelle à être séparé pour lui?
Are you prepared to go with him?
Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous êtes prêt à aller avec lui?
You know that expression get out from your country can be expressed in lots of different ways in the scriptures.
Cette expression sort de ton pays peut être exprimée de bien différentes manières dans l'écriture.
Many times you can read the expression come out from among them and be you separate.
Souvent, on va entendre l'expression sortez d'entre eux et soyez séparés.
In the book of Revelation, when there's the great city of Babylon, which represents all of the kind of power of man and the power of the devil against God.
Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé de la grande Babylone qui représente tout le pouvoir de l'homme, le pouvoir du diable.
The writer there says, come out from among her.
Et on entend une voix, qui dit sortez du milieu d'eux.
God is constantly calling us to come out and be followers of Jesus.
Et la Bible nous appelle constamment à sortir, nous séparer et suivre Christ.
Come out of all sorts of influences, the influences of our past, our personal history, our family history, all these things God can break and liberate us to follow him.
Et Dieu peut nous libérer de la puissance du péché, de notre passé familial, de de beaucoup de choses qui nous retiennent.
Even if our obedience has only been partial, we can still put that right tonight and move out from things that hold us and be followers of Jesus.
Même si notre obéissance a été juste partielle, n'a pas été totale, eh bien ce soir on peut encore avancer et obéir à Christ.
Let's just look for a minute at these early verses that we read about this command that came to Abraham from God.
Donc on va relire quelques versets. Which ones?
From verses 1 to 3 of chapter 12.
Donc on va relire dans Genèse les versets 1 à 3.
Notice that there's just one command that God gives to us.
Donc nous relisons et faisons bien attention. That's just one,
just command. One command.
Faisons bien attention en lisant, il y a juste un commandement que Dieu nous donne.
He says we're to get out of our country.
Nous devons sortir de notre pays.
That's what's required of us, obedience.
C'est ce qui est requis dans cette obéissance.
But look at what God promises to do when we obey him.
Mais regardez ce que Dieu promet de faire quand nous lui obéissons.
The sevenfold promise of God. I will, I will, I will, I will.
Et il y a une septuple promesse de Dieu qui nous dit je ferai, je ferai, je ferai.
I will show you a land, I will make you a great nation, I will bless you.
Je te montrerai un pays, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai.
I will make your name great.
Je ferai ton nom grand.
I will bless those who bless you.
Je bénirai ceux qui te béniront.
I will curse him who curses you.
Je maudirai ceux qui te
maudiront. Can you hear the great heart of God? I will, I will, I will.
Est-ce que vous entendez le grand cœur de Dieu qui dit je le ferai, je le ferai.
We're called to follow him. We're called to obey him.
Nous sommes appelés à lui obéir, nous sommes appelés à le suivre.
But that's just a small part that connects us to the great promises of God.
Mais c'est juste la petite partie qui nous connecte avec la grande bénédiction de Dieu, grande promesse de Dieu.
Our obedience is our response of faith to the command of God.
Notre obéissance est la réponse de la foi au commandement de Dieu.
That connects us to the promises and to the power of God.
Qui nous connecte avec les promesses et la puissance de Dieu.
We are not expected to somehow follow Jesus in our own strength or in our own power because we can't do it.
Dieu ne s'attend pas à ce qu'on suive Christ avec nos propres forces, avec notre propre puissance, parce que nous ne pouvons pas le faire.
None of us can live the Christian life. It's impossible.
Personne, aucun d'entre nous, ne pouvons vivre la vie chrétienne, c'est impossible.
But by faith, just a simple step of obedience connects us to the power of God, who then lives the life of God in us.
Mais juste par la foi, il y a ce pas d'obéissance qui nous connecte avec Dieu, qui va vivre sa vie en nous.
So to be a Christian is to be someone who says yes to God and then allows God to work in them.
Donc être chrétien, c'est quelqu'un qui dit oui à Dieu et qui permet à Dieu de vivre en lui.
It's not what we do.
C'est pas ce que nous faisons.
It's what he's committed to do.
C'est ce que lui s'est engagé à faire.
I will. I will, I will, I will.
Je le ferai, je le ferai, je le ferai.
In fact, if you look at several of the references to the new covenant in the book of Jeremiah and the book of Ezekiel in particular, you'll see that same emphasis.
Et si vous voyez plusieurs références à la Nouvelle Alliance dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ézéchiel, vous verrez qu'il y a le même accent qui est mis.
I will pour clean water upon you and you'll be clean.
Je répandrai des eaux pures sur vous et vous serez purifiés.
I'll take away your stony heart. I'll give you a new heart.
J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
I'll give you a new spirit. I'll put my spirit within you.
Je vous donnerai un nouvel esprit. Je mettrai mon esprit en vous.
I will. I will. I will.
Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai.
And that's all that he asks us to do. He asks us to take that step of faith, make that act of obedience. But he will do everything else.
Il nous demande de faire ce pas de foi, d'obéir, mais il fera tout le reste.
So Abraham went out according to the word of God.
Donc Abraham est sorti selon la parole de Dieu.
And then down in verse 6 it talks about him passing through the land and coming to the place called Shechem.
Et au verset 6, nous est dit qu'il a traversé le pays et il est arrivé à un lieu nommé Shechem.
And the place of Shechem actually means it, the place of the shoulder. It's the reference again to obedience.
Et le mot de Shechem signifie shoulder.
Shoulder.
Signifie l'épaule et ça nous parle encore de l'obéissance.
And in verse 7 it says, the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him.
Et au verset 7 on peut lire, il nous est dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu.
And this is the first of three altars that Abraham erected.
Et c'est le premier des trois autels que Abraham a construit.
We're not actually told about what he offered on the altar.
Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il a offert sur ces autels.
We don't really know why he knew how to build an altar.
On ne sait pas pourquoi il savait qu'il fallait construire un autel.
But it is significant that in his journeyings with the God who had revealed himself, that he wanted to make an altar.
Mais c'est significatif que dans sa relation avec le Dieu qui lui est apparu, eh bien il était poussé à construire un autel.
And really this was a depiction of the fact that he was offering up his life.
Et en fait, ça nous décrit le fait qu'il offrait sa vie.
To use a New Testament quotation, he was presenting his body as a living sacrifice.
Pour utiliser une citation du Nouveau Testament, il offrait sa vie comme un sacrifice vivant.
The burnt offering was the offering that was the offering up of the whole sacrifice.
L'offrande d'un oiseau.
Everything was consumed. The whole sacrifice was consumed for the burnt offering.
Quand il y avait l'offrande d'un oiseau, eh bien tout était consumé dans cette offrande.
It was like an offering of dedication, an offering of committal, a giving of everything on the altar.
Donc quand il offrait cette offrande d'un oiseau, c'était tout était consumé. Et donc c'était un engagement, c'était une consécration entière.
And then if you look in verse 8, he moves on again, he moves to the mountain east of Bethel, he pitches his tent with Bethel on the west and Ai on the east, and there he builds another altar to the Lord and calls on the name of the Lord. That's in verse 8.
Et si on continue à lire les versets, en particulièrement le verset 8, on voit qu'il construit d'autres hôtels. Should we read it?
Yes, that would be great, thank you.
Donc, il construit d'autres hôtels, donc on voit dans le verset 8, donc du chapitre 12, Genèse. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Ai à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel.
Bethel means the house of God.
Bethel veut dire la maison de Dieu.
Ai means a heap of ruins.
A heap of ruins.
A heap of ruins.
Alors Bethel veut dire la maison de Dieu et Ai, l'autre ville, veut dire un tas de ruines.
And Abraham pitched his tent between those two places.
Et Abraham a planté sa tente entre ces deux places, la maison de Dieu et le mont de ruines.
Almost certainly with Ai behind him and the house of God in front of him.
Donc certainement avec Ai derrière lui et la maison de Dieu devant lui.
Picture that he'd really turned his back on his old life, which was nothing but a heap of ruins.
C'est vraiment une image de ce qu'il a tourné son dos à son ancienne vie.
And he set his face to the house of God.
Donc il a tourné son dos à son ancienne vie et il a dirigé son regard vers la maison de Dieu.
To know the presence of God.
Pour connaître la présence de Dieu.
And to live in the presence of God.
Et pour vivre dans la présence de Dieu.
We're told in the book of Hebrews that he went out looking for a city, didn't he, whose builder and maker was God.
Et dans le livre des Hébreux, il nous est dit. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit qu'il recherchait une ville, une cité dont Dieu était l'architecte.
Now, the next little section, and I just want to touch on briefly. This is perhaps a little bit of an introduction, really, tonight. But in verses 10 down to 20 of chapter 12, there is a sad chapter in Abraham's life.
Alors, si on continue la lecture, et si on lit les versets 10 à 20, on voit qu'il y a un chapitre assez attristant dans la vie d'Abraham.
It just says in verse 10 that there was a famine in the land and Abraham went down to Egypt to dwell there.
Donc, il nous est dit qu'il y a eu une famine dans le pays et Abraham a été se réfugier en Égypte.
Now, we know that whenever the Bible talks about Egypt, it's always referring in type to a picture of the world.
Et on sait que dans la Bible, quand il nous est parlé de l'Égypte, ça fait une référence, c'est un type, c'est une image du monde.
And although circumstances were difficult, there was a famine in the land. Although circumstances were difficult.
Et bien que les circonstances étaient difficiles, c'est vrai, c'était difficile pour Abraham puisqu'il y avait une famine.
It appears that God didn't actually tell Abraham to go down to Egypt.
Il semble que ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller en
Égypte.
Il semble que c'est une décision qu'il a prise par lui-même.
Et c'est
intéressant parce qu'il est dit qu'il est descendu en Égypte.
Under the pressures of circumstances, he actually ended up going back into the world. That's the picture.
Et donc ce qu'on doit apprendre, c'est que sous la pression des circonstances, eh bien Abraham est retombé, il s'est dirigé, il est retombé dans le monde.
And when he went into the world, when he went down into Egypt, he compromised.
Et il a fait un compromis quand il a été en Égypte, il a fait un compromis avec le monde.
You can read the story. We're not going to read the story tonight, but there was compromise because of his decision to go down into Egypt.
Alors, on ne lira pas cette histoire, ce passage ce soir, mais il y a eu un compromis parce qu'il a pris la décision d'aller en Égypte.
And God was very gracious to him and intervened for him.
Mais Dieu lui a vraiment fait grâce, Dieu est intervenu pour lui.
So it says in chapter 13 in verse 1 that Abraham went up from Egypt.
Et c'est intéressant parce que après avoir lu ce passage, si on le lisait, à la fin de ce passage où il a fait un compromis, premier verset du verset 13, ça nous dit Abraham remonta d'Égypte.
He recovered himself, as it were. He got back out of Egypt.
Donc en fait, il s'est ressaisi. Il est sorti d'Égypte.
But tragically, Egypt left a mark on Abraham.
Mais malheureusement, l'Égypte a laissé une marque sur Abraham.
And we'll see this over the weekend that he got into difficulty, didn't he, with his lady called Hagar, who he acquired almost certainly in Egypt.
Et on va voir ça pendant le week-end, parce qu'il a eu des difficultés avec une femme appelée Hagar, qu'il a acquis en Égypte.
His wife Sarah had a maid who was called Hagar, and the Bible says she was an Egyptian.
La Bible nous dit que son épouse, l'épouse d'Abraham, Sarah, avait une servante qui s'appelait Hagar, qui était égyptienne.
So almost certainly he picked her up with the family while they were down in Egypt.
Et c'est probablement là qu'il l'a trouvé en Égypte.
And there are some very important things for us to think about there, aren't there?
Il y a sûrement quelque chose là qui doit nous faire réfléchir.
That if we compromise with the world, if we allow the world to get hold of our hearts.
Si on fait des compromis avec le monde, si le monde tient un peu notre cœur,
it will result in conflict and loss, and we will be inevitably, in some senses, contaminated, if that's the right word, or affected by that compromise.
Ce compromis va entraîner des conflits, des pertes, et on sera affecté par ce compromis.
As I said, and God was very gracious to Abraham because he came up out of Egypt. He didn't stay there.
Et cependant, Dieu a vraiment fait grâce à Abraham parce qu'il est sorti d'Égypte.
And in chapter 13, verse 3, it says that He went on his journey from the south as far as Bethel to the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai, to the place of the altar which he'd made there at the first. And there Abraham called on the name of the Lord.
Et donc on peut lire au verset 3, il nous a dit...
3, 4.
Donc on va lire les versets 3 du chapitre 13 qui nous indique la suite. Donc il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel.
Can you see what's happening there in the scripture?
Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là?
That if we do compromise, if we do get involved in the world,
si on fait des compromis, si on s'implique dans le monde,
if we lose our way in our walk of faith and journey with the Lord,
si on perd notre marche de foi avec le Seigneur,
what we do is we must get back to the place that we were at the beginning.
On doit revenir à l'endroit où on était au commencement.
In fact, the Lord, in his dealings with us, will not allow us to go on. If there are things that are unresolved, he will always take us back to the point that we were at the beginning.
S'il y a des choses qui n'ont pas été résolues dans notre vie, Dieu va toujours nous ramener à l'endroit où ces choses doivent être résolues.
Now, we're Christian people, we may not get engaged in the world in some sort of overt and obvious way.
Alors, en tant que chrétien, il est possible qu'on ne s'engage pas dans le monde d'une manière vraiment évidente.
But in the Bible, over and over again, there are times when the Lord talks about the attitudes of our hearts, doesn't he? Talks about the secret things that go on inside.
Mais cependant, la Bible, de manière répétée, parle de l'attitude de notre cœur, de tout ce qui se passe dans le secret de notre cœur.
For example, there's the references to the churches in the early chapters of the book of Revelation.
Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, dans les premiers chapitres, ça nous parle d'une église.
And looking on externally, everything seemed fine.
Et si on regarde dans cette église, de manière extérieure, tout semble bien aller.
The doctrine was right, and they sorted out this, and they checked out that, and they'd done the other.
La doctrine était bonne, ils s'étaient occupés de tel problème, ils s'étaient assurés que tout allait bien dans tel autre domaine.
But God said they'd left their first love.
Mais Dieu leur dit, tu as abandonné ton
premier
amour.
He said to them, he said, repent and do the first works. Get back to what you did at the beginning.
Et il dit, il faut se repentir, il faut retrouver ses premières œuvres, refaire ses premières œuvres et revenir à là où on était, de là où on est tombé.
We believe the Lord's with us tonight, don't we?
Alors on croit que le Seigneur est avec nous ce soir.
Believe he's here among us to touch our hearts and
on croit qu'il est avec nous,
bring his word to us,
qu'il est là pour toucher notre cœur, nous parler,
bring his spirit to stir our hearts, and if there has been compromise, if there has been that our hearts have grown cold,
il est là pour parler à notre cœur, si nous avons fait des compromis, si nos cœurs sont devenus froids.
He wants to bring us back to the place that it was at the beginning.
Il veut nous ramener à l'endroit où on était au commencement.
To that place of the altar.
Le lieu de l'autel du sacrifice.
Where everything was laid down and the heart worshipped and loved the Lord.
Le moment où tout était mis sur l'autel et on aimait, on adorait le Seigneur.
The place of first love.
Le lieu du premier amour.
It says there, Abraham called on the name of the Lord.
Il nous a dit que là, Abraham a invoqué le nom du
Seigneur.
There was,
if you like, a re-establishing of that communion and that relationship between Abraham and God.
Donc c'est là qu'il a rétabli cette communion, cette relation avec le Seigneur.
And then the final altar that Abraham builds is at the end of chapter 13. It's not the final one in his story, but it's the final one that we're going to look at tonight.
Et le dernier autel qu'on va considérer ce soir, c'est à la fin du chapitre 13.
The rest of chapter 13 is about the difficulties that he had with Lot.
Le reste du chapitre 13, après Bethel, on voit toutes les difficultés qu'il a eues avec Lot.
Let me say it again. Lot was a problem to Abraham all through his life, and really he should never have been with him.
Laissez-moi vous dire, Lot a été à causer des problèmes à Abraham pendant toute sa vie, et vraiment, il n'aurait pas dû être là.
This is why it's so important when God speaks to us, particularly early in our Christian experience, that we do let him have his full way in our lives.
Et là, on doit comprendre hein, que vraiment, en particulier dans nos premiers temps, nos premiers moments de vie de chrétienne, on doit vraiment laisser Dieu s'occuper de tout, nous affranchir de tout dans notre vie.
Because if we don't let God do that radical cutting off and separating of our lives to him, we bring problems into our lives thereafter.
Parce que si on laisse pas Dieu faire cette œuvre radicale de séparation, d'affranchissement, eh bien on va transporter avec nous des problèmes dans notre vie.
Lot went down into Egypt with him.
Lot est descendu avec lui en Égypte.
Lot is here causing strife and problem for Abraham, chapter 13.
Et Lot est source de conflit pour Abraham.
A bit further on, we read about Lot and the difficulties and the judgment that God made over Sodom.
A bit before.
A bit further on, yes, in the story, chapter 18.
So we read. Donc si on lit davantage, on voit. What did he cause? Can you read?
He caused problems for Abraham. He gave him heartache because he got involved with the city of Sodom.
Okay. Et si on lit davantage, on voit que Lot a même contribué à ce qu'Abraham ait des problèmes avec la cité de Sodome.
These are just illustrations of the fact that because Abraham didn't let God's word be fully worked out in him originally, he brought these difficulties upon himself.
Et parce que Dieu n'a pas laissé la parole de Dieu faire son œuvre dans sa vie dès le départ, eh bien il a transporté avec lui toutes ces difficultés.
In chapter 13, there was too many people and too many flocks for the land that was before them.
Et au chapitre 13, on lit qu'il y avait beaucoup trop de too many people and too many flocks.
Flocks of sheep and cattle and so on.
Donc quand on continue à lire, on voit qu'il y avait trop de monde et trop de brebis, trop de troupeaux pour le pays où ils allaient arriver. Ils avaient pris trop de choses avec eux.
And here part of the greatness of Abraham is seen.
Et ce qui fait la grandeur d'Abraham dans tout ça.
In that he doesn't fight Lot.
C'est qu'il commence pas à combattre Lot.
He actually lets Lot choose, and he says, "I'll have whatever you don't choose."
Et il dit à Lot, bon, ben tu choisis ce que tu veux prendre.
And just in verse 11, it says Lot, very significantly, Lot chose for himself all the plain of Jordan.
Et au verset 11, nous lisons, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain.
And Abraham was left with the rugged, barren hillside.
Et à Abraham, il lui restait quoi? Il lui restait tout ce qui était un peu aride, un peu désertique, tout ce qui n'était pas favorable.
Sadly, Lot's direction was towards Sodom. He set his face there, and that's where he ended up.
Mais malheureusement, eh bien, Lot il s'était tourné vers Sodome.
Abraham went into the mountains, into the barren, into the difficult places, and God there revealed to him that he would inherit the whole land.
Et Abraham, lui, il a choisi d'aller vers les montagnes, vers les endroits difficiles, vers les endroits rugueux, mais là, Dieu lui a montré, eh bien, qu'il lui donnerait tout le pays.
There's a great principle there for us to understand.
Et là, il y a un grand principe à comprendre.
That in our walk with the Lord, we must understand that we are not the one who makes the choices.
Et dans notre marche avec le Seigneur, nous devons comprendre que nous ne sommes pas ceux qui faisons, qui prenons les décisions.
We have to learn to be content to let God choose for us.
On doit apprendre à être satisfait que Dieu prenne les décisions pour nous.
Lot chose for himself and ended up in disaster.
Et Lot, il a pris ses propres décisions, ça s'est terminé en désastre.
Abraham left the choice to God and it appeared to be really difficult and problematic, but actually was God's great blessing to him.
Et Abraham a laissé Dieu prendre la décision pour lui. Et ça semblait être très difficile, il semblait y avoir des difficultés, des problèmes, et finalement ça a été quelque chose de formidable.
One of the things that happens as you look at the life of Abraham is that every time God speaks to him, he says a little bit more.
Et ce qu'on voit quand, dans l'histoire d'Abraham, c'est que chaque fois que Dieu lui parle, eh bien, il lui dit quelque chose en plus.
So when he says, I'll bless you, I'll make a nation of you, in the first promise that we've read.
Donc dans la première promesse que nous avons lue, nous voyons qu'il lui dit je te bénirai, je ferai de toi une nation.
He now says in verse 16 of chapter 13, I'll make your descendants as the dust of the earth.
Et au verset 16 maintenant du chapitre 13, eh bien lui dit je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre.
So if man can number the dust of the earth, then your descendants also can be numbered.
En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée.
What an incredible promise that is.
Quelle promesse incroyable.
And from there it says, Abraham, go on, rise, walk through the land in its length and width, for I'm giving it to you.
Et Dieu lui dit alors, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai.
And so the chapter ends up by Abraham moving his tent there, pitching it there, and building an altar to the Lord.
Et le chapitre se termine par Abraham qui lève son camp et va planter sa tente là.
Worshipping
et
him.
Il bâtit un autel. Et
worshipping him, blessing him, abandoning his life to him.
Et donc il bâtit un autel, il adore Dieu, il abandonne sa vie à Dieu.
Glory be to God.
Gloire soit à Dieu.
So really there's an introduction and what we'll hope to do is try and build on some of these things tomorrow and on Sunday and look at some of the key events in Abraham's life that help us to understand what God wants to do in our own.
Et donc ça c'est une introduction et on va essayer de bâtir sur tout ça et essayer à travers l'histoire d'Abraham de comprendre tout ce que Dieu veut accomplir, veut faire dans notre vie.
It is amazing, isn't it, that we're only here because of Abraham's faith.
C'est incroyable, hein? Nous sommes ici, on est juste ici à cause de la foi d'Abraham.
And Abraham's original response and God's great promise, I will, I will, I will.
On est ici ce soir à cause de la foi d'Abraham, la réponse qu'Abraham a fait à Dieu, et Dieu qui lui a dit, je le ferai.
It's a verse I think that comes 3 times, maybe 4 times in the New Testament. In you, all the nations of the earth will be blessed.
Et c'est un verset qui revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament où il nous est dit, en parlant d'Abraham, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies.
Amazing, isn't it?
C'est incroyable.
The seed that came through Abraham. And we're not just thinking about Isaac, but we're thinking about his greater seed, Christ.
Tout ce qui s'est passé à cause d'Abraham, on ne parle pas juste de ça, mais on parle de sa plus grande postérité qui est Christ.
And amazingly, in you, in me, families of the earth can be blessed.
Et de manière incroyable, en vous, en moi, les familles de la terre peuvent être bénies.
In the unfolding of the purposes of God, that we're in that great stream of His life and grace and ministry.
Dans le déroulement du plan de Dieu, nous faisons partie de tous ces ruisseaux qui font partie du déroulement du plan de Dieu.
Amen. Amen. You prepared to go after Him tonight?
Est-ce que vous êtes prêt à le suivre ce soir?
Really abandon everything else.
vraiment abandonner toute autre chose.
I was privileged to be brought up in a real godly Christian home.
J'ai eu le privilège de grandir dans une famille vraiment pieuse.
So that I was taught the things of the Lord from a cradle.
Et depuis ma plus tendre enfance, on m'a appris les choses du Seigneur.
But I know that there came a time in my life when God had to separate me from my family.
Mais je sais, il y a eu un moment dans ma vie où Dieu a dû me séparer de ma famille.
Remember what Jesus said? He said, "If you want to be my disciple, you've got to hate your mother, your father, your brother, sister." Remember that scripture? If you really want to be my disciple.
Et à un moment, Dieu m'a dit, si tu veux vraiment être mon disciple, il faut que tu haïsses ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Vous vous souvenez de ce verset?
Strange thing for Jesus to say, wasn't it?
C'est bizarre que Christ ait dit ça.
It doesn't mean that we hate them in the sense that we no longer love them.
Alors ça
we're anti them.
Ça veut pas dire qu'on les haïsse dans le sens où on n'a plus d'amour pour eux ou on ne les aime plus.
But Jesus was making a contrast between our response to him and our response to everybody else.
Mais Christ voulait par là établir un contraste entre la réponse qu'on lui donne à lui et la réponse, l'obéissance qu'on donne à qui que ce soit d'autre.
To be a real Christian requires a radical commitment to Christ that will cut across every other human relationship.
Et être chrétien, ça implique une obéissance à Christ qui va établir une séparation avec toute autre relation, qui va mettre à distance toute autre relation.
But when we see something of the glory of God and the greatness of what he has done in Christ.
Mais quand on voit quelque chose de la gloire de Dieu et la grandeur de ce qu'il a accompli en Christ.
And the promise and the commitment of his heart of what he will do for and in us.
Et la promesse et l'engagement de son cœur envers nous de ce qu'il va faire en nous et par nous.
Then there can arise in our hearts a response something like, Lord, I want to follow you.
Alors là, il peut y avoir dans notre cœur une réponse qui va jaillir. Oui, Seigneur, je veux te suivre.
I really want to be separate to you and let you fulfill all your purposes in my life.
Je veux vraiment être séparé pour toi et te laisser accomplir tes desseins en moi.
And we build our altar there. We lay our lives on it. And we say, here I am, Lord. Take me.
Et on bâtit notre autel, notre sacrifice là, et on dit, Seigneur, me voici, prends-moi.
And even if we get distracted and compromise,
et même si à un moment donné on commence à être distrait, à faire des compromis,
or the love in our hearts grow cold,
ou l'amour dans notre cœur se refroidit,
by the Lord's grace we can come back to the place at the beginning, can't we?
Par la grâce de Dieu, on peut revenir au lieu du commencement.
And make that recommitment to him.
Et à nouveau refaire cet engagement envers lui.
And again call on the Lord.
Et à nouveau invoquer Dieu.
And he'll respond to us.
Et il va nous répondre.
Praise God.
Qu'il soit loué.
We don't want any Lots or Hagars or Tiras that are going to hold us back, do we?
On n'a pas besoin de Lot, d'Agar ou de Tera qui vont nous retenir.
We want to be all that God wants us to be. I hope that's your heart.
On veut vraiment être 100% à Dieu. J'espère que c'est ce qu'il y a dans vos cœurs.
And we can really learn to walk with him.
Et alors là, on peut vraiment apprendre à marcher
avec
lui.
Shall we pray together? Let's just pray.
On va prier.